France Culture.
Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie, je laisse le temps, bonsoir, votre Quentin. Temps, de vous asseoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Si les politiques se sont empressés de réagir après le meurtre d'une surveillante de collège par un élève hier, que sait-on au juste de ce jeune de 14 ans qui ne manifeste ni regret ni compassion ? Anne Fauquemberg a suivi la conférence de presse du procureur de la République. La pêche illégale participe à la surexploitation des océans, mais aussi à l'exploitation des hommes. L'esclavage moderne sur mer est dénoncé au sommet des océans à Nice, où nous retrouverons Véronique Rebérotte. En Argentine, la condamnation de l'ex-présidente péroniste Cristina Kirchner à 6 ans de prison et à l'inéligibilité à vie est un séisme politique. Nous y reviendrons avec Frédéric Seyss. Et puis une étude de l'ONU confirme le déclin sans précédent des naissances au niveau mondial et pointe les freins au désir d'enfant. Nous analyserons cette crise démographique avec Oriane Gendreau. Les députés, comme les sénateurs, ont observé cet après-midi une minute de silence en hommage à la surveillante de collège tuée hier à coups de couteau par un élève. Et le même hommage sera rendu demain dans tous les établissements scolaires. Devant le collège de Nogent, en Haute-Marne, des bouquets de fleurs, dont beaucoup de roses blanches, ont été accrochés aux grilles du collège Françoise Dolto. Une cellule psychologique restera activée au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et les habitants de cette petite ville tranquille restent stupéfaits. L'auteur présumé du meurtre, un élève de 14 ans, est toujours en garde à vue. Le procureur de la République de Chaumont vient de tenir une conférence de presse que vous avez suivie. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Alors que sait-on ce soir de cet adolescent ?
Lors de sa conférence de presse, Denis Devalois, le procureur de Chaumont, a décrit cet adolescent né en 2010 comme détaché et en perte de repères par rapport à la vie humaine. Aucun signe à ce stade n'évoque par ailleurs un possible trouble mental. Le portrait dressé par le magistrat est assez glacial. En garde à vue, le collégien, qui ne présente pas d'antécédents judiciaires, a reconnu les faits mais sans exprimer de regrets. Et il a lui-même peut-être établi un lien entre le fait d'avoir été sermonné par une surveillante vendredi 6 juin alors qu'il embrassait sa petite amie. Et ce qu'il s'est passé hier, explique le procureur.
À la suite de cet incident de vendredi, il déclare avoir ressassé, dès le lendemain, samedi 7, le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il précise d'ailleurs avoir, mardi matin, après le petit déjeuner, pris le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts.
Les faits se sont passés très rapidement. En quelques minutes, 7 plaies ont été retrouvées sur le côté gauche de la victime, mais aussi au niveau des mains, sur le crâne et dans le dos. Par ailleurs, le procureur n'établit pas de corrélation entre le contrôle inopiné des gendarmes et le passage à l'acte de l'adolescent. La garde à vue a été prolongée et les investigations menées pour meurtre aggravé à l'encontre de la surveillance et tentative de meurtre concernant un gendarme, eh bien, ces investigations, elles se poursuivent.
Vous le disiez, Anne, à ce stade, selon le procureur, aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il est évidemment trop tôt pour se prononcer. Sur France Inter ce matin, la ministre de l'Éducation a assuré que le gouvernement était mobilisé pour détecter les signes de détresse psychologique ou de fragilité psychologique chez les jeunes. Elisabeth Borne a fait référence aux assises de la santé scolaire qui se sont déroulées le 14 mai. Assises qui entendent mettre l'accent sur une meilleure prise en charge de la souffrance psychique des élèves en mettant notamment en place des personnels repères, Jeanne Stémard.
L'idée, c'est que d'ici la fin de l'année scolaire 2026, 2 personnels repères en santé mentale soient formés dans chaque collège, lycée et circonscription scolaire. Autrement dit, 2 membres volontaires du personnel de l'établissement, un conseiller principal d'éducation ou un accompagnant d'élèves en situation de handicap, par exemple. Une proposition critiquée par Safia Guérechi, infirmière scolaire et secrétaire générale du syndicat des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale.
C'est des formations qui ne sont pas qualifiantes, c'est des formations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. En lieu et place de professionnels formés et qualifiés, donc de formations vraiment qualifiantes avec des gens capables d'agir mais aussi à qui on peut demander des comptes, on va mettre des référents. C'est presque, ça tourne au ridicule, hein, mais dans une école aujourd'hui, on va avoir le référent harcèlement, le référent décrochage, mais aussi le référent égalité. Donc maintenant, on va ajouter santé mentale et ce ne sont pas des professionnels former.
La formation d'un personnel repère, ça n'est pas ce que demande le syndicat. Avec moins de 8000 postes d'infirmières scolaires pour 60 000 établissements en France, infirmières qui souvent sont présentes sur plusieurs collèges, lycées ou universités, Safia Guérechi attend plutôt du gouvernement qu'il réponde au manque de moyens humains. Il faut du personnel qualifié pour recueillir la parole des élèves.
Il faut plus d'équipes pluriprofessionnelles. Il y a infirmières, assistantes sociales, psychologues. Mais c'est bien ça dont a besoin l'école, c'est de moyens humains, de réponses éducatives. Il faut donner des moyens à l'école pour qu'elle agisse et pas des mesures de façade, quoi.
Pour renforcer les 7800 postes d'infirmières scolaires déjà en place, le syndicat demande la création de 15 300 emplois supplémentaires pour couvrir les besoins des élèves et des étudiants.
Jeanne Stemmar, faute d'offres de reprise jugées recevables, l'enseigne de magasins d'ameublement Casa France a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Les 143 magasins sont concernés. Casa France emploie près de 700 personnes en France. À Paris, c'est le Forum des images qui est en crise. Ce lieu dédié au cinéma et à l'image sous toutes ses formes projette comme tous les ans la sélection des films de la quinzaine des cinéastes de Cannes, 19 longs métrages. Situé sous les Halles, ce Forum des images a 3 salles de projection, des ateliers, des cours, des festivals. Mais la direction vient d'annoncer aux équipes une vague de mesures d'économie. Alors des salariés ont monté un collectif de défense du Forum des images. Ils craignent, Adrien Toffolet, que l'institution parisienne ne perde son identité et ses missions premières.
Cela fait 2 ans que la ville de Paris baisse de 500 000 euros sa subvention annuelle au Forum des images. C'est donc 1 million d'euros d'économies à trouver pour la direction et des mesures radicales à la clé. Réduction de plus de 20% des effectifs, nombre de séances de cinéma divisé par 2 ou encore instauration d'un 2e jour de fermeture afin de permettre d'ouvrir un peu plus le lieu à des privatisations. Pour Raphaël Henriot, délégué syndical Sud Culture Solidaire, entre baisse d'activité et privatisation accrue du lieu, c'est toute l'identité du Forum des images qui est remise en question.
Il y a la volonté affichée de la direction, qui peut se comprendre d'un certain côté, hein, ils sont dans leur rôle, hein, de recourir de plus en plus à de la programmation partenariale, donc c'est-à-dire des programmations qui ne seraient pas effectuées par nos équipes, mais par des gens qui seraient de l'extérieur et qui pourraient être amenés à nous imposer des choses. C'est la crainte de devenir à terme une sorte de palais des congrès dans les Halles ou quelque chose comme ça, qui n'aurait plus grand-chose à voir avec l'ADN historique du Forum des images.
Crainte entendue par Claude Farge, le directeur du Forum des images, qui évoque des expériences précédentes de partenariats satisfaisants, comme avec Netflix pour l'organisation de masterclass.
C'est quelque chose qui existait déjà, mais qu'on souhaite, si vous voulez, pérenniser et mieux organiser. Il est hors de question pour nous d'accueillir sans distinguo n'importe quel partenaire. On doit vraiment avoir un travail très en amont et même pendant l'événement avec nos équipes et les partenaires qui ont été trouvés.
Des partenariats indispensables aujourd'hui pour toute institution culturelle dans le contexte actuel.
On n'est pas du tout la seule institution à s'orienter vers ce type de modèle. Donc c'est quelque chose qui existe, qui va se développer certainement de plus en plus dans le monde de la culture.
Pour le Forum des images, toutefois, une incertitude s'ajoute à court terme. L'issue des prochaines élections municipales dans la capitale, qui ne garantit pas la stabilité du montant de la subvention de la ville de Paris après 2026.
Au salon Vivatech, où se réunissent toute la semaine start-up et investisseurs du monde entier, le géant californien Nvidia annonce s'être associé au champion français Mistral pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle. Également présente au salon Rice University, l'université américaine de Houston, au Texas, université spécialisée dans la recherche sur les nouvelles technologies et les énergies vertes, qui se retrouve dans le collimateur de Donald Trump. Pourtant, elle ne compte pas baisser pavillon, Annabelle Grelier. Elle a même ouvert un campus à Paris et multiplie les collaborations scientifiques avec la France.
La transition énergétique, la ville durable, la santé et l'intelligence artificielle responsable. Voilà les 4 domaines de recherche prioritaires à Rice University. Forcément, pas très compatible avec la politique Trump. Comme beaucoup d'universités aux États-Unis, Rice a dû gommer le lexique de la diversité sur son site et a vu certaines subventions fédérales se tarir. Mais l'université texane, classée 20e sur 800, possède des fonds propres et des donateurs qui lui permettent de fonctionner normalement, assure d'un ton volontairement prudent, Caroline Levender, directrice stratégique de Rice University.
Bien sûr que l'on est aussi touché par cette politique, personne ne peut y échapper. Mais on s'est construit pour durer, nous sommes résilients, nos projets vont se poursuivre et nous resterons fidèles à nos engagements. Ce sont des domaines de recherche d'intérêt mondial pour des problèmes que l'on ne pourra pas résoudre seul. Les scientifiques ont besoin de collaboration, notre campus de Paris en est un exemple.
Donald Trump a proclamé en janvier dernier la fin du New Green Deal, ville. Si le message anti-énergie renouvelable est clair, ses implications concrètes sont beaucoup plus floues. Aditya Mohité est professeur en génie chimique. Il conduit à Rice University un programme de recherche en énergie renouvelable, solaire et hydrogène, qui pour l'heure n'a pas été affecté par le gouvernement américain, explique-t-il.
Ils ont beau dire et critiquer les technologies vertes, vous savez, ce sont de grands projets stratégiques pour tous les pays. Elles sont synonymes d'indépendance énergétique. Et puis l'hydrogène, par exemple, est largement utilisé pour produire de l'acier que soutient ce gouvernement. Le solaire alimentera les data centers. Alors, je pense que c'est de la politique court-termiste qui ne durera pas. C'est juste un moment difficile que l'on surmontera.
Rice University collabore sur ces sujets depuis des années avec le CNRS. À noter que le Texas, État républicain s'il en est en tête de la production d'énergie renouvelable depuis plus de 10 ans aux États-Unis.
Annabelle Grelier, comment lutter contre l'industrie de la pêche illégale? C'est l'un des dossiers abordés au sommet sur les océans à Nice. Il faut savoir qu'un poisson sur 5 est pêché illégalement et que des centaines de milliers de personnes sont exploitées dans ce cadre. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Vous êtes à Nice pour France Culture. On peut même, Véronique, parler d'esclavage moderne.
Tout à fait difficile, en tout cas, d'évaluer le nombre de ces esclaves des océans. Plusieurs centaines de milliers de pêcheurs en situation de travail forcé, en mer, loin des regards, pauvres parmi les pauvres, migrants, enfants. Amélie Giardini de la Fondation pour la Justice Environnementale, l'OJF, recueille des témoignages glaçants.
Ce qu'ils disent, c'est on m'a dit que j'allais aller 2 mois en mer, que j'allais être payée. Et quand je suis arrivée à bord, on m'a confisqué mon passeport. On m'a dit que de toute façon, j'étais déjà endettée, qu'il fallait que je repaie mes dettes à l'organisation. Et puis, on m'emmène en mer et parfois, je revois ni ma famille ni la côte pendant des années. Alors, on a interviewé un Coréen du Nord qui n'avait pas vu la terre pendant 10 ans. Il y a un système où, en fait, ils envoient des bateaux, c'est comme des bateaux annexes, si vous voulez, qui vont chercher les poissons qui ont été pêchés par le bateau de pêche. Et s'ils veulent faire tourner l'équipage entre bateaux de pêche, les passent d'un bateau à l'autre, voilà, ils les font tourner en mer, en fait, pour qu'ils soient complètement piégés. Les gens qu'on interview, ils nous disent qu'ils nous tapent dessus, on mange n'importe quoi. On a eu une interview d'un pêcheur qui nous disait, un collègue, il en pouvait tellement plus. Enfin, il devenait fou, en fait. Et un matin, on a vu sur la caméra du bateau qu'en fait, il a sauté à l'eau. Il ne pouvait plus supporter les conditions.
L'Organisation mondiale du travail, l'OIT, profite de cette conférence de Nice pour inciter de nouveaux pays à ratifier la convention C-188, convention de droit du travail, signée il y a 18 ans, mais ratifiée seulement par 24 pays. Elle n'est pas opérationnelle. Elle permettrait pourtant des contrôles de bateaux de pêche qui finissent quand même par rejoindre les ports. Tariq Haq est le responsable du transport maritime à l'OIT.
Cette convention autorise à inspecter les navires de pêche battant pavillon étranger faisant escale dans leur port.
C'est-à-dire que si un bateau indonésien s'arrête dans un port français, les autorités françaises pourraient aller vérifier que c'est en règle.
Exact. La convention garantit que tous les navires, quel que soit leur pavillon, respectent les mêmes normes du travail lorsqu'ils entrent dans les ports des États qui l'ont ratifié.
Principaux pays visés, la Chine en premier lieu, l'Indonésie et la Corée du Sud, une flotte immense à eux trois qui pratique l'esclavage moderne en mer sans modération.
Véronique Reberotte à Nice avec Jérémy Thuil à la technique. Aux États-Unis, la nuit a été plutôt calme dans le centre-ville de Los Angeles, même si la police a interpellé plusieurs personnes qui violaient le couvre-feu. Il a été instauré par la maire démocrate pour mettre fin aux actes de vandalisme, mais des manifestants continuent de dénoncer, parfois violemment, la politique migratoire du gouvernement de Donald Trump. Bonsoir Benjamin Ely.
Bonsoir.
Vous êtes à Los Angeles, où les méthodes de la police de l'immigration ont mis le feu aux poudres.
Oui, son nom c'est ICE, pour Immigration and Customs Enforcement, la police de l'immigration ou anti-immigration, devenue la bête noire des opposants à la politique de Donald Trump, qui a promis 3000 arrestations par jour et près d'une soixantaine déjà à Los Angeles et ses environs depuis vendredi dernier quand la colère a éclaté. Au-delà des arrestations musclées dans l'espace public, c'est la méthode qui interroge. La maire de Los Angeles, Karen Bass, sur CNN, écoutez sa colère froide quand elle décrit certaines interpellations. On nous a dit qu'ils en avait appris des criminels violents, mais ils ne sont pas allés dans un repère de trafiquants de drogue. Ils sont allés dans un magasin de bricolage, un endroit où ces gens travaillent. Avant-hier, un syndicat d'agriculteurs américains dénonçait une campagne de peur avec des arrestations menées au petit matin dans les environs de Los Angeles. Des vidéos circulent montrant des hommes en tenue militaire courir à travers champs pour interpeller des ouvriers agricoles en plein travail. Ces migrants sont une main-d'œuvre essentielle pour les récoltes. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui fait figure de potentiel candidat pour la prochaine présidentielle, joue le match avec Donald Trump. Si certains d'entre nous peuvent être enlevés dans la rue sans mandat, uniquement sur la base de soupçons ou à cause de leur couleur de peau, dit-il, alors aucun d'entre nous n'est en sécurité. Les régimes autoritaires commencent toujours par cibler les personnes les moins à même de se défendre.
Benjamin Elie à Los Angeles pour France Culture. En Argentine, la Cour suprême confirme la condamnation de l'ancienne présidente Cristina Kirchner. 6 ans de prison et l'inéligibilité à vie pour fraude pendant sa présidence. Cristina Kirchner est une figure dominante de la vie politique argentine depuis 20 ans. Bonsoir Frédéric Saïd.
Bonsoir.
C'est donc un jugement retentissement et un séisme politique. Alors face à l'actuel président ultra-libéral, Javier Milei, dans quel état se retrouve aujourd'hui l'opposition argentine?
Alors si vous êtes engagé à gauche et que vous cherchez à l'étranger des motifs de réconfort, ne regardez surtout pas ce qui se passe en Argentine. Cristina Kirchner est effectivement la voix la plus puissante de l'opposition. 72 ans, ancienne présidente, figure historique de la gauche péroniste aux accents sociaux et populistes. La voici donc interdite de se présenter à une élection à vie. Cette décision de justice vient décapiter une gauche zombie en Argentine, encore titubante, sonnée après sa défaite dans les urnes il y a un an et demi face à Javier Milei, qui, souvenez-vous, proposait d'attaquer les dépenses publiques à la tronçonneuse. Le président argentin, malgré ses provocations, reste assez populaire, 48% d'approbation dans les sondages. Alors à gauche, combat difficile mais urgent, les élections de mi-mandat sont dans 4 mois, la relève pourrait s'incarner avec le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, 53 ans, lui aussi issu de cette gauche péroniste comme Kirchner, c'est même son ancien dauphin, je dis ancien parce que tous les deux se sont brouillés, désormais concurrents dans la bataille pour prendre la tête de leur mouvement. Cela dit, l'opposition argentine n'est pas totalement amorphe. Les mouvements sociaux, traditionnellement puissants dans le pays, ont repris de la vigueur. Mobilisation, par exemple, autour du cas d'un hôpital pédiatrique, l'hôpital Garrahan à Buenos Aires, victime de l'austérité budgétaire avec des salaires de personnel soignant gelés pendant que l'inflation continue de croître. De quoi redonner du souffle à une gauche qui, jusque-là, s'époumonne dans le vide.
Frédéric Saïs, merci. En Russie, une figure de l'opposition a été arrêtée. Lev Schlossberg, 61 ans, est l'un des rares opposants qui continue à s'exprimer publiquement contre le conflit en Ukraine, tout en restant en Russie. Cet homme politique avait déjà été menacé et poursuivi plusieurs fois par les autorités, mais il restait libre. Hier soir, il a été arrêté à son domicile. Il a été ce matin présenté à la justice, qui a décidé, Sylvain Tronchet, de l'assigner à résidence en attendant la suite de l'affaire.
Lev Schlossberg échappe à la prison au moins pour les 2 mois à venir. Arrivé menotté au tribunal de Pskov ce matin, le vice-président du Parti libéral Yabloko a pu rentrer chez lui ce soir. Mais il lui est interdit d'utiliser tout moyen de communication. En clair, l'opposant est réduit au silence. Lev Schlossberg était précisément l'un des derniers, sinon le dernier, à oser commenter et critiquer régulièrement et tout haut la politique du Kremlin en Russie. Il se savait menacé, il a été classé agent de l'étranger il y a 2 ans, mais il expliquait qu'il était impossible, selon lui, de faire de la politique, d'être entendu depuis l'étranger. Alors il marchait sur un fil depuis le début de la guerre, surveillant ses paroles, mais livrant des analyses sans concession, jusqu'à la publication d'une vidéo il y a quelques jours où il appelle à un cessez-le-feu rapide. Dans l'esprit des autorités russes, il s'agit là d'une discréditation des forces armées, un délit qui a déjà conduit en prison de nombreux opposants. Le domicile de Lev Schlossberg, de même que celui de son père, âgé de 96 ans, ont été perquisitionnés. La machine répressive russe semble s'être mise en marche contre lui. En Russie, elle ne fait jamais marche arrière dans les affaires politiques.
Sylvain Tronchet, à Moscou, les taux de fécondité dans le monde connaissent un déclin sans précédent. C'est la conclusion d'une enquête du Fonds des Nations Unies pour la population. Selon cette étude, une personne sur quatre vit aujourd'hui dans un pays dont la population est déjà arrivée à son pic. Et la première cause de cette baisse de fertilité n'est pas physiologique ni médicale, Oriane Gendreau. C'est le contexte socio-économique qui décourage les futurs parents.
En Corée du Sud, en Inde ou en Hongrie, même constat, un jeune sur cinq affirme ne pas vouloir d'enfant ou se résoudre à ne pas en avoir autant que souhaité. Selon cette étude menée dans 14 pays couvrant un tiers de la population mondiale, le premier frein est l'argent. Un jeune sur trois pointe la difficulté à se loger, un emploi trop précaire, l'éducation ou la garde d'enfants trop chère. En Corée du Sud, pays dont le taux de natalité est l'un des plus bas au monde, 58% des jeunes renoncent à avoir un enfant faute de moyens. Autre frein, l'inégalité homme-femme et la peur du manque d'implication des pères, mais aussi la crainte de l'avenir, citée par 20% des jeunes interrogés, peur du changement climatique ou d'un climat politique défavorable. En Italie et en Thaïlande notamment, les nouvelles générations disent culpabiliser à l'idée d'avoir un enfant. Face à ce mouvement, plusieurs pays comme l'Italie ou la Corée du Sud ont lancé des campagnes contre l'effondrement démographique, des campagnes contre-productives selon le Fonds des Nations Unies pour la population, qui appelle surtout à améliorer les conditions de vie des citoyens.
La météo, des orages ce soir et cette nuit sur le sud-ouest. Demain matin, c'est sur le nord-ouest qu'il y aura des averses orageuses. Ailleurs, du soleil et il fera encore très chaud demain, 10 à 20 degrés au petit matin du nord au sud. L'après-midi, 21 à 26 en Bretagne et de 29 à 35 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Alison Vry-Vicrobeck.